Alors, nous avons abordé il y a 15 jours, puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu de cours, la personnalité de Karel van Mander, c'est-à-dire d'un écrivain qui va se situer par rapport à l'histoire des artistes, la vie des peintres, de Vasari, je dirais à la fois d'une manière qui reprend le modèle de Vasari, qui se sert du modèle de Vasari, et en même temps qui s'y oppose, et même qui s'y oppose d'une manière polémique. Alors ce n'est pas une polémique virulente, ce n'est pas une opposition frontale, c'est néanmoins une prise de position qui prend très nettement ses distances avec Vasari. Donc il y a à la fois le modèle Vasari, et en même temps, c'est un contre-modèle. Ce Schilter Book de Karel van Mander, Vie des illustres peintres néerlandais et allemands, date de 1604, publié en 1604, et je vous l'avais dit, c'est une des œuvres majeures de la littérature flamande de l'époque maniériste. En vérité, l'auteur ne donne pas vraiment les raisons pour lesquelles il écrit ce livre, mais les historiens du XVIIe, du XVIIIe siècle ont très vite fait de dire que Karel van Mander, c'est le Vasari du Nord. C'est celui qui a dressé aux artistes septentrionaux une sorte de vaste... Il en a fait un vaste panorama qui est l'équivalent de ce qu'a fait Vasari, ce qui n'est pas juste dans le fond. Même si le livre est en effet une réponse flamande aux affirmations de Vasari concernant notamment la prééminence de Florence et la fin de l'art avec l'indépassable Michel-Ange. Alors ces deux données, à la fois le modèle florentin, Florence comme ville élue, comme ville choisie par Dieu pour qu'il s'y déroule le sommet de l'histoire de l'art, enfin qu'on y arrive à un point d'aboutissement extraordinaire, et aussi l'idée que c'est Michel-Ange qui incarne cet aboutissement, ces deux notions sont battues en brèche par Karel van Mander. Et au contraire, il met en évidence ce qu'il appelle la décadence de l'art italien, à laquelle répondrait un développement de l'art septentrional. J'avais déjà dit que c'est dans une personnalité comme Jan van Skorrel qu'il voit, au fond, le premier germe de ce qui va ensuite donner une école, en fait, c'est ce qu'on appelle ainsi à l'époque, c'est-à-dire tout un développement autour d'ateliers et autour de personnalités singulières et importantes. Alors, je vous avais cité déjà ce texte, on peut peut-être y revenir. Il y avait cette idée que les peintres italiens auxquels ils rendent justice en disant qu'ils ont pu arriver de bonne heure à la juste conception de la vraie nature, tandis que nos flamands s'appliquaient encore à chercher le progrès par un travail routinier. Voilà, donc ça, c'est la situation historique, pour lui, est bien claire. Il y a, d'une part, les Italiens, avec cette extraordinaire conception de la nature englobant quelque chose de très général, sur quoi j'aurai l'occasion de revenir, et tandis que les flamands s'appliquaient encore à chercher le progrès et le travail routinier. Autrement dit, il oppose l'Italie, des artistes italiens, à des artisans. Les peintres flamands seraient encore des artisans. Et puis l'idée des ténèbres, de nouveau, qui revient ici, éclairée soudain par le voyage d'Italie de Jan van Skorrel. Et ça, ça va devenir aussi un topos dans la littérature septentrionale, l'idée que l'Italie, c'est un moment de rupture tellement essentiel qu'au fond, le voyage italien donne naissance à une renaissance. Le voyage italien ouvre vers une deuxième naissance de l'art. J'y reviendrai aussi dans un instant. Alors voilà, donc, il fut le premier à visiter l'Italie et à venir éclairer chez nous l'art de peindre. Je crois que je ne vous avais pas... Je crois que je n'avais pas montré ce texte. De plus, jusqu'à notre temps, Ça, c'est la préface de la première partie du livre. De plus, jusqu'à notre temps, je mentionnerai, autant que faire se pourra, les nobles artisans, les hommes de génie qui ont contribué au progrès de l'art. S'il m'arrive d'omettre quelqu'un, ça c'est important pour la conscience méthodologique de l'historien von Mander, s'il m'arrive d'omettre quelque chose, qu'on ne se hâte point de m'accuser d'agir de la sorte par mauvais vouloir et intentionnellement, mais qu'on y voit exclusivement l'absence de données suffisantes. Autrement dit, si je n'ai pas suffisamment d'informations au sujet de tel ou tel artiste, je n'en parle pas. Ou je préfère taire ce sur quoi je ne suis pas suffisamment informé. Que l'on ne m'en veuille pas davantage de parler des maîtres de notre temps, donc de l'art contemporain, car il est plus facile d'être circonstancié, précis et véridique pour ce qui les concerne que pour les hommes qui, depuis plusieurs années, ont disparu et presque ont sombré dans l'oubli et au sujet desquels on serait heureux d'être mieux renseigné. Cette conscience de la fuite du temps et, en même temps que de la fuite du temps, de la fuite du naufrage, on pourrait dire, quasi assuré, de toutes les sources qui pourraient nous renseigner sur le passé, c'est une idée qui n'est pas du tout présente chez Vasari. Il y a là presque une sorte de singularité de cette pensée d'un homme du Nord qui est beaucoup plus, semble-t-il, sensible en tout cas à cette question de la source et de l'information. Il faut bien reconnaître que von Mander était tout aussi prompte que Vasari à inventer et à combler les trous de son information lacunaire s'il le fallait. Il y avait quand même dans tous ses écrits une part de l'imagination et une part de collage, enfin de mise en évidence de fiction qui ne gênait pas les auteurs, parce que c'était ainsi qu'on travaillait. Alors donc, il déplore l'absence de sources relatives aux artistes du passé, et ce que je trouve très intéressant aussi là, c'est la distinction opérée entre le présent, qui nous serait par définition plus accessible, et le passé, qui s'obscurcit au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. C'est une idée qui ne va pas de soi et je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Je ne pense pas qu'il soit plus facile d'écrire sur les artistes vivants parce que, soi-disant, ils sont vivants et on aurait plus d'informations sur eux. Je pense que le problème est ailleurs et on verra où il se déplace vraiment. La grandeur de l'art, selon von Mander, est tributaire de l'histoire, donc du contexte historique dans lequel cet art se déploie, de la géographie. La question de la géographie artistique est mise en avant par von Mander, comme d'ailleurs par Vasari, évidemment. Mais par von Mander, elle est mise en avant, j'allais dire, en faveur d'un plus grand déploiement d'école et d'originalité particulière. C'est-à-dire que Vasari utilise la géographie comme une sorte de rétrécissement de l'espace vers ce point focal qu'est la ville de Florence, tandis que von Mander nous dit tout de suite qu'il y a des centres. Il y a des centres. Il n'y a pas un centre, il y a des centres. Il y a des lieux favorables à la production artistique. Donc, histoire, géographie, et puis, notion très importante, qui évidemment apparaît aussi chez Vasari, mais que von Mander met en évidence avec beaucoup d'insistance, c'est que l'art doit beaucoup à la protection des mécènes. Grâce aux mécènes, certaines régions peuvent se développer plus que d'autres. Et pour lui, on pourrait dire la figure absolue du mécène, c'est Rodolphe II à Prague, qui incarne pour von Mander le renouveau même de l'art. Alors, aujourd'hui, lorsque nous lisons les biographies de von Mander, nous sommes tout de même un peu sur notre faim. Nous restons sur notre faim pour la raison suivante, c'est que Vasari a quand même un style fleuri. Il développe abondamment, il bavarde, je dirais en d'autres termes, très souvent. Mais ce bavardage est souvent plein de truffé d'anecdotes, plus ou moins colportées, avec raison. Ce n'est pas le cas de Van Wander, qui est plus mesuré, qui est plus pondéré, qui est plus court dans l'ensemble, et qui aussi, je dois dire, adopte une perspective légèrement différente. Il faut le lire, je crois, en fonction du corpus dont il s'occupe, donc des artistes qu'il retient et des œuvres de chacun de ces artistes qu'il retient, en fonction de sa méthode et en fonction du contexte historique dans lequel il écrit. Alors, pour la succession des vies de son livre, il adopte un ordre chronologique. Et c'est cette forme de classement et d'histoire qu'il va adopter définitivement. Les biographies qui concernent les peintres de l'Antiquité, dont il parle, ont pour source Pline, toujours Pline l'Ancien, ça ne change pas par rapport à Vasari. Pour l'Italie, il se sert évidemment de Vasari. Et ensuite, il traite les Pays-Bas et l'Allemagne. Il commence par Van Eyck, par les frères Van Eyck, et achève son panorama sur les artistes des Pays-Bas et de l'Allemagne par ses contemporains. Lui-même, d'ailleurs, Karel Van Wander, était peintre. Donc il est, lui aussi, dans un milieu de peintres. Et voilà, ça s'achève à son époque. Il n'y a pas, si vous voulez, ce point d'aboutissement Michel-Ange qui ferme avant, bien avant la publication des vies de Vasari, qui ferme son cycle. Dans les deux cas, chez Vasari, je l'ai dit, et chez Van Wander, il faut le souligner aussi, on assiste tout de même à cette héroïsation de l'artiste, si vous voulez. L'artiste est un personnage héroïque. Et sa vie, je vous l'ai dit, est calquée sur deux modèles. Le modèle antique de l'homme illustre, comme on en trouve par exemple chez Plutarque, mais aussi sur, c'est une hypothèse que je voudrais encore développer, sur le modèle de la vie du saint. La vie du saint, telle qu'elle est traitée par les grands dominicains du XIIIe siècle en Italie, est sûrement une des sources de Vasari, donc indirectement aussi de Van Wander. Ce sont au fond aussi peu des vies réelles que des fictions. Avec les vies de Van Wander, on est dans une sorte d'entre-deux dans lequel l'historien moderne a beaucoup de mal à se retrouver. Il utilise les mêmes topoi que Vasari, ces mêmes clichés, pour employer un mot plus connu. Et au fond, il fait jouer ces clichés les uns contre les autres pour tantôt opposer les artistes italiens aux artistes septentrionaux, tantôt pour mettre en valeur certains artistes du Nord par rapport à d'autres. Ces ensembles de biographies sont regroupés et précédés de préfaces, comme chez Vasari. Là aussi, il y a un modèle, c'est Tite Live dans son Histoire romaine. Et dans ces préfaces, ça c'est évidemment intéressant pour nous, il donne des aperçus un peu plus théoriques sur les artistes eux-mêmes, sur leur originalité, sur sa méthode, sur la façon dont il aborde l'étude de l'art. La préface aux Antiques, par exemple, est deux fois plus copieuse que celle des deux autres groupes. C'est un peu normal, il avait beaucoup plus de matière. Il savait, déjà en ayant lu Pline, qu'il pouvait dire un certain nombre de choses en les empruntant à son illustre prédécesseur. Il abondait moins en commentaires pour des sujets plus récents. Alors, c'est aussi parce que la préface aux Antiques concerne l'origine de la peinture, et par conséquent, cette question de l'origine de la peinture ne peut pas être séparée de la question de l'existence de la peinture et des fins de la peinture. À quoi est-elle finalement destinée? Comment est-elle en train d'évoluer? Dans la préface aux Italiens, qui est la deuxième partie, il évoque les différentes appréciations qu'a connues l'art entre l'époque paléochrétienne et Charlemagne. Il n'y a pas cette coupure radicale à l'époque de Constantin à laquelle on est habitué. Donc c'est sa philosophie de l'histoire, en fait. Dans la préface aux artistes des Pays-Bas et de l'Allemagne, là, enfin, il explique ses objectifs et donne aussi des renseignements sur sa pratique de l'histoire et comment il a utilisé les historiens plus anciens. Alors, je reviens juste à ces trois préfaces, pour en dire un peu plus dans le détail. La préface aux Italiens, bien sûr, la décadence des arts se situe sous Constantin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il calque sur le modèle de l'histoire la question de la translatio imperii. La peinture, à ce moment-là, émigre vers le nord. Ça, c'est tout à fait intéressant de voir comment ce modèle de l'histoire factuelle est transposé dans l'histoire de l'art. L'Italie est alors le lieu, il le souligne, de la décadence des mœurs, et l'art qu'on y produit doit être considéré comme un art historique. Comme l'art antique, il est un modèle, mais ne peut pas être l'échelle à laquelle on va mesurer l'art à venir. Ceci pour bien marquer que Michel-Ange n'est pas l'aboutissement pour lui. Il ne veut pas du tout adopter cette position vasarienne. Et tout ce qu'il va écrire dans les Italiens, dans la partie sur les Italiens, c'est d'opérer cette espèce de glissement qui nous fait quitter Michel-Ange comme figure absolue, comme figure de la perfection, pour nous tourner vers un autre artiste nordique, évidemment, qui est pour lui l'exemple même d'un aboutissement, c'est Goltzius. J'en reparlerai. D'autre part, Van Mander déplace la question de la perfectibilité si chère à Vasari. Rappelez-vous, pour Vasari, et c'est à la fois la logique et la contradiction de ses vies, puisqu'il adopte un schéma cyclique, naissance, jeunesse, maturité, décadence, ce schéma semble s'arrêter brutalement à propos de Michel-Ange, puisqu'il n'y a pas de décadence. Michel-Ange, c'est un sommet, au contraire. Mais il ne nous informe pas, Vasari, de ce qui pourrait arriver plus tard. Néanmoins, toute la progression de son récit met en évidence l'existence d'une perfectibilité de l'art. Si l'art n'était pas perfectible, Michel-Ange ne serait pas là pour aller au-delà, pour aller plus loin que ce que les anciens eux-mêmes ont su réaliser de plus beau. Le fait que quelqu'un, qu'un artiste moderne, puisse dépasser l'Antiquité était bien la preuve de la perfectibilité de l'art. Alors, par rapport à ça, Van Mander a une position très différente. Il ne nie pas la possibilité de l'art de se perfectionner, je dirais c'est presque évident dans le schéma de pensée d'un homme comme lui, mais il transpose cette question de la perfectibilité et la déplace géographiquement. Ça c'est intéressant. Il n'y a pas un lieu élu comme chez Vasari Florence, et tout se concentre là, et tout le reste du monde est jugé à l'aune de ce lieu choisi par Dieu. Au contraire, il déplace là géographiquement, ça veut dire qu'il va évidemment trouver d'autres centres, en particulier vers le nord, mais il n'y a pas un lieu unique où les choses doivent se dérouler par une sorte de destinée. C'est presque une sorte de légitimation théologique de la prépondérance de l'art du nord sur celui du sud. Et pour Van Mander, Goltzius, cet artiste dont j'aurai l'occasion de parler encore, n'est pas le pôle à opposer à Michel-Ange. Avec lui, avec Goltzius, la peinture, tout simplement, emprunte une autre voie. Une autre voie. Vous voyez là, l'idée de la relativité dans l'examen historique de cette évolution de l'art. L'idée de quelque chose qui peut avoir lieu ailleurs, qui peut être jugé autrement, avec d'autres critères, c'est tout à fait important. Néanmoins, Goltzius, tout comme Michel-Ange, je ferai un parallèle un peu plus loin, Goltzius est aussi un artiste élu par Dieu. On retrouve quand même les mêmes préoccupations. Puis, la préface aux peintres de l'Antiquité dont je vous avais parlé, je reviens juste pour une question de méthode. La source donc, que Van Mander emploie, c'est Pline, je vous l'avais déjà dit, mais Pline compte les airs et par conséquent la le développement artistique, enfin, apprécie le développement artistique dans un comptage chronologique qui n'a absolument rien à voir avec le comptage chronologique d'un écrivain protestant du XVIe siècle, c'est évident. Donc, en fait, la difficulté pour Van Mander, c'est comment situer cette petite portion de l'histoire de la peinture dont il est en train de s'occuper par rapport à une histoire de la peinture qui a été pratiquée durant 6000 ans dans l'Antiquité et qui correspondrait à la totalité de l'existence du monde pour un chrétien. Il y a là quelque chose de totalement inconciliable dans son esprit. Et on comprend bien. Nous sommes, encore une fois, dans des chronosophies qui sont réglées depuis le Moyen-Âge, et ce n'est pas d'un coup de baguette magique que ces écrivains historiens vont les ébranler. Et dans la préface au peintre flamand, revient la question du modèle. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'un historien met en avant une personnalité dans un livre d'histoire au XVIe siècle, c'est lorsque cette figure est héroïque, le héros militaire, par exemple. Donc, la vie des peintres, pour Van Mander, ne peut devenir intéressante pour le lecteur, pour le public auquel il s'adresse, pense-t-il, et en particulier aux jeunes gens auxquels il s'adresse, que comme exemplum virtutis, et par conséquent comme un véritable modèle, non seulement artistique, mais aussi éthique, morale, comme chez Vasari. Et en outre, l'art introduit la beauté dans le monde. Sans doute, dit Van Mander, il ne manque pas d'auteurs qui se consacrent à décrire avec science et application les tragédies. Moi, j'ai mis le terme à la fois allemand et flamand. De notre scène néerlandaise où coulent des flots de sang. Si moi-même je ne m'y risque pas, c'est parce que j'ai pour premier motif mon ignorance de ce genre de travaux et pour second les préoccupations et les dangers dont nous menace la fureur des discordes. Au cas où je puisse me résoudre à pareille tâche, je mériterais que Cintius me tirât les oreilles et de m'entendre dire « Ce n'est point ton rôle d'écrire l'histoire des héros, de retracer les combats, de nous parler des éclats de la poudre, mais plutôt de relater les coups de pinceau et de décrire les œuvres d'art. » C'est, sur le plan rhétorique, une formulation assez percutante, cette façon d'opposer quelque chose qui est, je dirais, presque le goût dominant de l'époque, le théâtre, le théâtre à gros effets, si vous voulez, hein, les tragédies où le sang coulait abondamment et où l'on décrivait précisément les grands cataclysmes qui s'abattaient soit sur les individus, soit sur la société. Et il oppose à cela la peinture. Le coup de pinceau, c'est encore plus, j'allais dire, c'est encore plus concentré dans la délicatesse, hein, les coups de pinceau et d'écrire les œuvres d'art. C'est aussi, pourrait-on dire, a priori, ne pas prendre en compte la fonction sociale de l'écrivain ou de l'historien. A-t-il à s'occuper de décrire des œuvres d'art ? Ne doit-il pas plutôt s'occuper d'édifier l'homme, le lecteur, par des exemples vertueux, mais de grands hommes, de généraux, de souverains, etc. Non. Et là, nous avons une affirmation très intéressante sur le plan à la fois de l'esthétique, mais aussi sur le plan de l'éthique. Alors, du point de vue de la géographie artistique, dont j'ai dit un mot, il est évidemment intéressant de voir qu'il s'occupe géographiquement d'un ensemble qui nous paraît aujourd'hui assez étrange. Il parle des Pays-Bas, il parle de la Haute-Allemagne, hein, hors Deutschland. Reprenant en fait la terminologie géographique de Giucciardini, qui avait effectivement parlé des Pays-Bas, c'est-à-dire des Pays-Bas, c'était la Germanie inférieure, et puis la Germanie supérieure, ou la Haute-Allemagne, si vous préférez. Et donc, Dürer et Lucas de Lède sont les deux ornements de ces deux régions, de l'Allemagne pour Dürer et des Pays-Bas pour Luca Delaide. Et un des grands soucis de Van Lander, sur lequel il revient très souvent, même s'il le fait de manière parfois extrêmement lourde, c'est de revenir sur la question du regroupement des artistes. La ville est vraiment le lieu du regroupement des artistes. C'est dans les villes qu'ils les regroupent, et non pas tant dans des régions. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que un des parallèles très intéressants qu'on peut faire, qui est sans doute le plus évident, c'est entre la vie de Henryk Goltzius par Van Lander et celle de Michel-Ange par Vasari. Le parallèle s'impose puisque Van Lander lui-même nous dit que toute l'importance qu'il accorde à Goltzius, et nous savons le rôle qu'a joué dans la fortune critique de Michel-Ange, évidemment, la vie de Vasari, écrite par Vasari. Alors, je vous lis ici un passage avant de passer à une analyse de ce parallèle sur la vie de Goltzius. « Laissant la plume au roi des praticiens, écrit Van Lander, je passe à l'examen de ses peintures. À son retour d'Italie, Goltzius avait gravé dans sa mémoire l'image ineffaçable des glorieuses peintures italiennes. Déjà, cette image ineffaçable, cela nous montre bien qu'il y a une nécessité absolue pour ces grands artistes, Van Scorel, Goltzius, d'aller en Italie. Ce voyage d'Italie semble être une étape absolument essentielle. Voyage d'initiation, enfin, nous en dirons encore quelques mots. Et en même temps, il faut revenir d'Italie. La question n'est pas seulement d'y aller, c'est indispensable, mais il faut aussi en revenir. Et c'est ce retour qui va marquer le départ de quelque chose. En quelques lieux qu'il alla, il ne cessait de les revoir, ces peintures italiennes. Alors, la grâce de Raphaël, la morbidesse du Corrège, les puissantes oppositions du Titien, les riches étoffes et les accessoires si bien peints par Véronèse et les autres Vénitiens, tout cela le poursuivait, au point que les choses de son pays ne pouvaient plus le satisfaire aussi complètement. Donc, de nouveau, l'idée que ce voyage bouleverse complètement sa perception de son propre pays. C'était une joie pour les peintres, donc les autres peintres du Nord, et un enrichissement de l'entendre en parler, car ses propos étaient de carnation ardente, d'ombre profonde et de paroles analogues, rarement et à peu d'oreilles exprimées. Donc il tenait là un langage sur la peinture qui étonnait tout le monde. S'il lui arrivait de dessiner quelque chose, les chairs devaient être indiquées au naturel, à l'aide du crayon de couleur, de telle sorte qu'au bout du compte, il se mit à la peinture à l'huile, 2 ans à peine après son sevrage, bien qu'il eût atteint sa 42e année. Vous avez compris que le sevrage, c'est avoir quitté le sein de l'Italie, évidemment. C'est le sevrage par rapport à l'Italie, son retour en Italie. C'était en 1600. On peut lire ce passage très rapidement, sans lui accorder d'intérêt, mais c'est un passage important. 1600, c'est le début d'un siècle. Et je pourrais vous donner maints exemples dans l'histoire de l'art où 1600, 1800, 1900 ont été considérés, pas seulement comme, évidemment, la date du passage d'un siècle à l'autre, mais comme le passage à un renouveau de l'art. Un renouveau de l'art. L'entrée dans un siècle est considéré dans l'historiographie à maintes reprises comme quelque chose de tout à fait essentiel, comme rupture, comme moment de rupture et de renouveau, de renaissance, si vous voulez. Sa première peinture fut pour Gisbert Rikersen à Haarlem, un petit Christ en croix avec la Vierge, la Madeleine et Saint Jean au pied de la croix, sur cuivre, peint sur cuivre. Le cadavre du Christ est fort naturellement rendu, bien coloré et extraordinairement compris. Vous n'en apprenez pas grand-chose. L'ensemble est d'un fort joli ton. Dans le fond, on voit la ville de Jérusalem. Et à l'avant-plan, on remarque une poule et ses poussins, allusion aux paroles du Christ pleurant sur Jérusalem. Cette poule et ses poussins est en effet une métaphore qui revient assez souvent dans les, même dans des objets du Haut Moyen-Âge. Il y en a une, un exemplaire de cela au trésor de Monza, en Italie, la poule étant aussi considérée comme une analogie, si vous voulez, du Christ, avec ses poussins qui sont évidemment les chrétiens. Alors, la naissance de Goltzius elle-même, nous dit par ailleurs Van Lander, relève d'un dessein divin. D'un dessein divin. Et il le prouve d'une manière tout à fait habituelle à l'époque, par son horoscope. Son horoscope confirme qu'il s'agit d'un être élu, dit-il, tout comme d'ailleurs Vasari avait rappelé l'horoscope de Michel-Ange. Les grands événements historiques, pour les historiens de cette époque, sont souvent rattachés à des constellations particulières du ciel. Il ne faut pas oublier ça. On explique et on raconte des grands faits de l'histoire en disant on était dans telle conjonction stellaire. Et pour confirmer son dire, il nous explique que Goltzius est né quelques jours avant la fête de la vocation de saint Paul. Cette précision est extrêmement intéressante. La vocation de saint Paul, vous savez tous de quoi il s'agit. Ça veut dire que, en effet, la vocation, ça veut dire que c'est bien le moment où ce général a tout à coup eu la révélation de ce que va être sa mission sur Terre. C'est un appel divin. Il est désigné par Dieu. Donc ce n'est pas du tout un hasard, même si c'est quelques jours avant la fête de la vocation de saint Paul, il met bien en parallèle la vocation de Goltzius et la vocation d'un saint. Comme Vasari l'avait dit pour Michel-Ange, Van Mander affirme avoir été un ami proche de Goltzius, donc cette proximité, évidemment, est à mettre au bénéfice d'une meilleure connaissance. Personne ne peut mieux connaître Goltzius que Van Mander, puisqu'il a à la fois été proche de l'homme et de l'œuvre. Alors, j'insiste encore un peu sur le détail de cette biographie très, très intéressante. Il nous raconte aussi que Goltzius, dès son enfance, a été victime d'accidents domestiques. Sans doute, est-ce possible, vraisemblable ? Né dans une famille d'artistes, il a été très tôt victime d'un accident, dont le détail duquel je n'entre pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui a affecté sa main droite, l'usage de sa main droite. L'usage de la main droite, pour un peintre, évidemment, c'est quelque chose qui peut être profondément contrariant, ou qui peut même définitivement contrarier une vocation. Cependant, à 7 ou 8 ans, nous dit Van Mander, Goltzius révèle des dons exceptionnels pour la peinture. Et entre 21 et 24 ans, brusquement, il sombre dans une profonde mélancolie, malgré son talent, malgré ses dons que sa famille avait parfaitement favorisés. Et il est tellement plongé dans cette maladie de l'esprit que sa famille le donne pour perdu. Enfin, il donne apparemment des signes de grand bouleversement psychique. C'est alors qu'il se rend en Italie. Goltzius se rend en Italie et il fait un voyage que Van Mander nous raconte d'une manière, j'allais dire, un peu légère, mais qui a une profonde signification, je crois. On apprend que Goltzius, qui était très doué, qui montrait volontiers ce qu'il faisait aux uns et aux autres, s'amusait à se déguiser. C'est-à-dire qu'il ne passait jamais dans une ville deux fois habillé de la même manière. Donc on ne le reconnaissait pas, on ne pouvait pas l'identifier. Et il écoutait ce que les gens disaient des œuvres de lui qu'ils avaient en main. Ne passant jamais pour le même personnage, n'étant pas identifiable comme Goltzius, c'était un jeu. Vous allez voir l'importance de cette histoire. Donc, il s'amusait à endosser des rôles et des aspects d'autres personnages. Après un séjour à Venise, un séjour à Bologne et à Florence, il arrive à Rome en 1591, en pleine épidémie de peste, ce qui pourtant ne détourne pas Goltzius de son travail de dessiner des antiques. Il dessine des antiques qu'il voit à Rome, ce qui était l'activité de tous les artistes qui arrivaient là. Et Van Mander nous dit qu'il supporte bien. Et ce n'est qu'une fois chez lui, à nouveau, retourné dans le Nord, qu'il est malade. Il est de nouveau pris d'une crise de mélancolie. Alors, il faut bien voir cette histoire par rapport à celle de Michel-Ange, bien entendu, mais ça, c'est tout à fait autre chose, mais aussi, par exemple, par rapport à ce que nous savons de Dürer. Quand Dürer est allé en Italie, comment il a vécu la rencontre avec l'Italie, l'Italie septentrionale, d'abord, et comment il a ensuite interprété ce voyage d'Italie pour lui-même, considérant que c'était en effet pour lui une nouvelle naissance, un nouveau départ, la connaissance de toutes les préoccupations théoriques des grands artistes italiens, etc. etc. Là, il y a quelque chose qui est plus étrange parce qu'on a l'impression que, au contact du Nord, c'est-à-dire de son propre milieu, de son propre environnement, ce malheureux Goltzius ne peut être que pris de mélancolie et qu'il a besoin de l'Italie pour vivre. Et en même temps, quand il est en Italie, il n'est pas lui-même, puisqu'il troque sa personnalité et son aspect pour l'aspect d'autres personnes, d'autres personnages. Alors, je crois qu'il y a une clé qui explique tout cela. Par exemple, à propos des estampes qui ont été faites par des gravures, donc qui ont été faites par Goltzius, Van Mander insiste sur ce que j'appellerais moi, c'est pas de lui le terme, l'éclectisme dont était capable Goltzius. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Van Mander est ébloui par la manière dont Goltzius sait rendre la manière de différents maîtres au point de tromper le public. Il sait graver à la manière d'autres graveurs. Et cette manière de les imiter est tellement réussie que le public s'y laisse prendre, apparemment les amateurs aussi, et les acheteurs aussi. Il nous dit en particulier qu'il a fait passer une gravure qu'il a faite, d'après la circoncision de Dürer, pour une œuvre de Dürer, et que tout le monde l'a cru. Donc ça veut dire qu'il s'est vraiment se substituer entièrement à un autre. Donc vous voyez bien la liaison qu'on peut faire entre l'homme qui se déguise sans arrêt d'une ville à l'autre pour entendre les commentaires qu'on fait sur ses œuvres, et l'homme qui, en même temps, sait adopter la virtuosité d'autres grands artistes, Dürer étant considéré quand même comme le plus grand par beaucoup des artistes septentrionaux, c'est quelque chose de très remarquable, je crois. Je rappelle juste que dans La vie de Michel-Ange par Vasari, il y a un épisode tout à fait analogue. Vasari raconte que Michel-Ange avait destiné à Lorenzo de Médici un Cupidon endormi qu'il a fait passer, qu'il a fait lui-même, Michel-Ange, mais qu'il a fait passer pour un antique. Après l'avoir enterré, après l'avoir traité, il y a encore des faussaires aujourd'hui qui savent faire des choses comme cela, il a fait passer cette œuvre pour une œuvre antique. Il semble même qu'il soit allé parfois très loin en faisant acheter des œuvres qu'il avait faites et qui étaient des faux. Donc la pratique de ce genre de choses n'était pas tout à fait unique dans le cas de Goltzius ou dans le cas de Michel-Ange. Je voudrais tout de même ajouter que la relation que l'on entretenait avec l'original ou l'originalité d'une œuvre et la copie d'une œuvre n'est pas du tout la même que celle que nous entretenons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un sens extrêmement aigu de ce qui est original et de ce qui est un faux, de ce qui est un plagiat, un faux intentionnel, etc., etc. Ça, ce sont des notions qui n'existaient pas. Et travailler à la manière d'un autre artiste était considéré, au contraire, comme quelque chose d'extrêmement important pour définir la capacité qu'on avait à copier, ou la puissance créative qu'on pouvait avoir à recréer l'œuvre d'un autre artiste. Donc je crois vraiment qu'il y a là un très intéressant parallélisme entre les déguisements dont se sert Goltzius pour voyager et entendre l'avis des confrères sur son œuvre et cet éclectisme tout cela constitue, je crois, vraiment un élément structurant de la biographie de Goltzius. Alors donc, à son retour d'Italie, l'obsession dont est habité Goltzius est bien soulignée par Van Mander. Tout cela le poursuivait au point que les choses de son pays ne pouvaient plus le satisfaire aussi complètement. Le séjour en Italie, s'il a été à l'origine, au fond, de la peinture septentrionale à travers Van Scorel, est à nouveau considéré comme absolument nécessaire, comme ressourcement de l'art d'un artiste septentrional. C'est un véritable récit initiatique que nous fait Van Mander. Et en même temps, il y a cette très très belle, c'est pas tout à fait la conclusion, mais c'est une phrase que je trouve magnifique dans cette biographie de Goltzius par Van Mander. Il dit « Je me rappelle lui avoir entendu dire, donc avoir entendu dire à Goltzius, à plus d'une reprise, qu'il n'avait jamais rien fait qui l'eût satisfait entièrement. » C'est très beau, c'est certainement vrai, si l'on voit le tempérament mélancolique de Goltzius, qui ne devait jamais être satisfait de ce qu'il faisait et qui ne voulait pas non plus, qui ne souhaitait pas non plus affronter les critiques des autres, même s'il était un très très grand artiste. Je me tourne maintenant vers le deuxième livre qui se situe toujours dans la tradition de Vasari, et après nous irons rejoindre, j'allais dire, l'autre camp, la réaction contre Vasari. Le deuxième livre est encore un livre dû à un auteur septentrional, Joachim von Sandrart, S-A-N-D-R-A-R-T, qui occupe, de par sa vie, le XVIIe siècle, la totalité du XVIIe, il est né en 1606, mort en 1688, et c'est un écrivain qui se situe nettement au-dessus de Van Mander, néanmoins, à la fois par son exigence intellectuelle, par l'ampleur de sa vision de l'art, et aussi par les finalités qu'il a assignées à son livre ou à ses publications. Il est l'auteur de cette fameuse Academia Todesca dell'Architettura, Scultura et Pittura, Oder Deutsche Akademie der Heldenbau, Bild und Malerei Kunst, le titre italien qui revendique la filiation des traités et des écrits italiens, qui restait le modèle, bien entendu, dans le Nord. Et puis, tout à coup, Oder, et c'est en allemand que suit le titre, qui n'est pas tout à fait une traduction littérale, de cette académie que nous appelons couramment la Deutsche Akademie de Sandrart. Donc l'académie allemande, si vous voulez. Le premier volume de ce livre paraît en 1675, le deuxième en 1779. Donc en 1779, l'édition est close. Et dès 1983, paraît une édition latine, ce qui nous dit bien que le public cultivé exigeait de pouvoir lire ce type d'ouvrage en latin. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. J'aurai encore l'occasion d'en parler à propos d'auteurs français du début du XVIIIe siècle. Alors, Sandrart revient au modèle de Van Mander, donc de Vasari, et il se situe par rapport à cette filiation-là. Il s'agit d'un panorama, pourrait-on dire, depuis l'Antiquité, qui est constitué d'abord par une histoire de l'art, puis des biographies selon trois livres qui respectent les découpages nationaux de Van Mander, c'est-à-dire l'Antiquité, les Italiens et les artistes du Nord, flamands et allemands, réunis, donc Nieder- und Hochdeutsch. La conception de l'art médiéval qu'a Sandrart, c'est-à-dire de cette immense période qui va de Constantin jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et cette conception reprend en gros celle de Vasari, aussi avec cette idée d'un schéma biologique, donc croissance, maturité et puis décadence. Bien sûr, ces trois phases sont déplacées sur la période moderne et dans les pays du Nord. Il n'y a pas uniquement un hymne aux artistes italiens, en particulier aux Florentins et aux Toscans. Il remet en cause Michel-Ange en tant qu'aboutissement de l'art et aboutissement d'une tradition qui prend ses sources dans l'art antique. Et Sandrart développe l'idée d'un temps continu avec la recherche d'un idéal auquel ne participe pas une seule famille d'artistes, mais à la recherche duquel participent tous les artistes. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a comme une sorte de, j'allais dire, cette vision convergente et tout à fait téléologique qu'il y avait chez Vasari, tout devait aboutir à Michel-Ange. Eh bien, on a le sentiment, en lisant Sandrart, que d'abord, tout ne doit pas aboutir à une chose, à un homme, à un génie, fût-il aussi grand, mais que c'est dans une sorte de pluralité, dans un temps auquel participent ensemble tous les grands créateurs. Il a la conscience, à la différence de cette géographie artistique de Van Mander qui se lisait par grands centres, il a la conscience d'un espace européen, je dirais. C'est-à-dire, en tout cas, d'un espace qui est bien plus large, qui englobe le sud, le nord, et qui ne se limite pas, si vous voulez, à des centres urbains. Il insiste beaucoup, par exemple, sur les échanges et les contacts noués par les artistes entre les différentes régions. Il n'attribue pas uniquement à des prédispositions particulières, comme une atmosphère de la Toscane pour Vasari, les dispositions particulières de chaque artiste. Elles peuvent lui venir de ses contacts avec d'autres artistes, elles peuvent ne pas être uniquement confinées à un problème de, j'allais dire, à la fois d'histoire et de géographie, de moment et de conditions climatiques en particulier. Pardon, je vous avais lu un texte que vous n'aviez pas sous les yeux, j'en suis tout à fait désolé. Alors voici, je ne donnerai pas plus de citations de Sandrart. Voici un passage qui va vous paraître extrêmement indigeste, et je le conçois, et je le trouve aussi indigeste, mais il est très important parce que c'est la première fois qu'il y a ici une tentative de regrouper en catégories, non pas en école, ce serait faux, mais en catégories des artistes. On pourrait aussi dire de procéder à une sorte de regroupement par nationalité, mais ce serait pas assez nuancé. Alors, il y a trois petits paragraphes dans cette première partie. Qui concerne la préface, c'est important, destinée aux jeunes peintres. Donc, ce qu'il dit là doit être en quelque sorte mémorisé par les jeunes peintres, doit évoquer quelque chose pour les jeunes peintres. Certes, il va le développer ensuite, mais quand même. Les mêmes différences étaient aussi... Alors, les Italiens anciens et les modernes, première partie. Les mêmes différences étaient aussi et sont encore décelables chez les Italiens, chez les Allemands et chez les Flamands, et certes avec une grande perfection, en particulier en peignant avec justesse et dans les forces de la couleur que cela exige. La traduction est lourde, mais le texte original l'est aussi. Ce que l'on peut conclure du doigté naturel, de l'élévation parfaite et de l'extraordinaire rapidité des artistes de nos époques. Ceux-ci étaient Cimabue, donc il commence avec la fin du XIIIe siècle, les modernes. Cimabue, le grand réinventeur de cet art. Gaddo Gaddi, son suiveur, et Giotto. Bizarrement, il n'y a pas le moindre mot sur Giotto, qui est évidemment le plus important. De même, Giovanni Bellini excellait en exactitude. Qu'est-ce que cela veut dire ? Michel-Ange en figure et en grande intelligence. Cette curieuse chimie entre des termes qui caractérisent des capacités intellectuelles, par exemple, et d'autres qui déterminent des genres, figures, peintres de figures. Léonard de Vinci en affectes ingénieux. Ça, c'est un peu mieux vu. Andrea del Sarto en effet agréable. Raphaël d'Urbino en invention magistrale. Giulio Romano en conception extraordinaire. Titien en grâce, en particulier dans le coloris. Corrège en choses aimables. Véronèse en idées abondantes. Tintoret en singularité. Carrache en fresque. Vous direz, avec ça, on est très avancé. Caravage et Manfredi en vie. Guido Reni en choses pleines de grâce. L'Albane en invention délicate. Le Bernin en sculpture et architecture. François Duquesnoy en vérité dans la sculpture, l'Algarde en adresse, Pierre de Corton en fresque, Lanfranco en rapidité, le Dominicain en profondeur, Claude Gellée en paysage. Ce sont des artistes qu'il sait travailler ou avoir travaillé en Italie. Donc il réactualise bien entendu Vasari, mais avec une telle incapacité à caractériser la singularité de chacun, qui montre bien qu'en fait les œuvres, j'allais dire, avait peu d'importance. En tout cas, il ne les connaissait pas. Il connaissait très peu de choses de ces artistes. Les anciens Allemands. Alors, eux apparaissent ici, j'allais dire, quasi, pas pour la première fois, puisqu'on en a déjà évoqué à propos de deux ou trois autres textes, mais une des toutes premières fois. Après eux, nos peintres allemands se rendirent également dignes d'admiration. Ainsi, Martin Schongauer, en élévation. Matthias d'Aschaffenburg, ça c'est Grunewald, par l'esprit délicat. Albrecht Dürer, par l'intelligence universelle. Hans Holbein, par la main heureuse. Amberger, par la vérité. Boxberger, par la richesse de l'esprit. Schwarz, par l'expérience. Adam Elsheimer, par une intelligence particulière. Elsheimer, un des très grands artistes de cette époque. Enfin, les peintres des Pays-Bas. Alors là, pour les peintres des Pays-Bas, a priori, il n'a pas de source, ou les seules sources qu'il a, c'est Van Mander. De même, les peintres des Pays-Bas, Jan et Hubert van Eyck, étaient réputés pour l'invention de la peinture à l'huile. Bon, jusque-là, rien à redire. Lucas de Leyde pour le soin. Bruegel l'Ancien pour l'intelligence. Ainsi que Kleve, Jos van Kleve, et Johan van Kalkar pour la main. Floris pour la maîtrise. Brouwer pour la représentation de paysans. Jacques Fouquière pour les paysages et les arbres. Rubens pour la richesse de son esprit, Van Dyck pour la délicatesse, Honthorst pour ses tableaux bien faits, Rembrandt pour la diligence de son travail, Porcelis en bateau et marine, etc., etc. Pourquoi je tenais à vous imposer ce pinsum? C'est parce qu'il me semble que là se dégage tout de même une vision de l'histoire de l'art, indiscutablement, à l'époque où Sandrart écrit, et une volonté de bouleverser la grille de lecture, si je puis dire, qu'avait imposé Vasari, indiscutablement. Il y a ici la volonté de la part de Sandrart d'imposer un autre schéma. Évidemment, il manque absolument la verve de Vasari. Vasari aurait bien ajouté quelques commentaires à chaque nom, quitte à inventer quelque chose. Non, Sandrart ne le fait pas, mais la pauvreté des commentaires et des qualificatifs, des indications, est tout à fait consternante et nous montre bien qu'il s'agissait juste de marquer, je crois, d'une manière mnémonique, dans l'esprit du jeune peintre, car c'est bien à lui qu'il s'adresse, un qualificatif ou un indice qui permet de retenir un nom. Je crois que c'est purement ici un système lié à la mémoire, à la formation de la mémoire. Un nom seul, évidemment, ne peut pas être... Une succession de noms, une liste de noms ne peut pas être mémorisée. Mais par contre, un nom auquel on ajoute un mot ou deux, cela suffit pour le rendre mémorisable. Néanmoins, il faut nous intéresser à la conception qu'a Sandrart de l'histoire, tout de même. Et sa conception de l'histoire n'est pas si anodine ou si banale qu'elle y paraît. Il utilise, par exemple, dans son édition de 1679, l'histoire des médailles. L'histoire des médailles a, pour lui, une place dans l'histoire de l'art. Il relate, par exemple, la vie des 12 premiers empereurs. Il tend même, dirait-on, en lisant cette partie, à faire une histoire culturelle, ce qui est un mouvement, un déplacement par rapport à l'histoire vasarienne qui est intéressant. Hein. Une histoire culturelle dont... Après, les récits biographiques et dont ce qu'il veut apprendre aux peintres ferait partie. Il publie aussi des gravures, nous en verrons, faites d'après ses propres dessins de sculptures antiques. Il les avait faites en particulier pour la Galleria Giustiniana, et ces figures antiques, vous allez voir comment il les utilise pour servir de modèle aux élèves qui vont lire son livre, qui n'ont pas, eux, la possibilité de voir des œuvres antiques. Alors, la conception qu'a Sandrart de l'histoire, elle s'appuie sur la conception de l'histoire qu'avaient les historiens de la Renaissance et qu'ils ont appliquée à l'histoire de l'État ou à l'histoire de la poétique de l'Antiquité. Et Vasari, on le sait, a été le premier à les appliquer, à appliquer cela à l'art. Alors, aussi bien Van Mander que Sandrart ont repris cela avec plus ou moins de fidélité. Sandrart était, par exemple, convaincu, comme Vasari, que l'art est arrivé à un degré de perfection, ce qui n'est pas le cas de Van Mander. Mais cette perfection, ce n'est pas chez Michel-Ange qu'il faut la chercher, mais c'est chez les grands maîtres de Rome, de Parme et de Venise. Donc il y avait vraiment chez Sandrart un regard sur l'Italie qui était lui-même critique par rapport à la grille de lecture vasarienne. Il adopte le modèle organique, donc, que j'ai déjà répété plusieurs fois, et il impose à la connaissance historique et à l'historien en fait deux limites. Ce modèle organique leur fait faire une impasse totale sur le Moyen-Âge, c'est le premier constat, puisque sinon nous aurions eu une période de perfection dans l'Antiquité, une période décadence, mais qui aurait été immédiatement suivie d'une nouvelle période de perfection qui était la Renaissance, donc ce schéma ne tenait pas debout. Donc il fallait bien considérer que le Moyen-Âge, on n'en parle pas, on fait comme s'il n'existait pas, et c'est à partir d'autres outils conceptuels que Sandrart applique à l'art du XVIIe siècle, notamment des développements nationaux. Développements nationaux qui commencent à avoir là une importance cruciale, mais qui ont déjà de l'importance chez Vasari. Ce n'est pas parce que Vasari ne parle que de l'Italie qu'il n'y a pas une forte conscience nationale de son histoire, de sa conception de l'histoire. Ce qui, par contre, est tout à fait intéressant, je n'aurai pas le temps, malheureusement, de m'y attarder, c'est que le jugement que porte Sandrart sur l'architecture gothique, bien entendu, il ne peut pas avoir un avis sur l'architecture gothique, il ne sait même pas vraiment la définir. Néanmoins, il part de l'idée que, tout comme le décorum était une notion extrêmement intéressante à la Renaissance, importante, pardon, à la Renaissance pour les théoriciens, c'est-à-dire la conformité de tous les éléments ornementaux et structurants d'une architecture vers un même but, eh bien, il reclasse, si je puis dire, le gothique à l'intérieur de ce système du décorum. Et aux cinq ordres de Vignol, Sandrart ajoute un sixième ordre, l'ordre gothique, le gothica, disant que cet ordre-là doit se caractériser par des colonnettes ornées de feuillages de vigne. C'était une conception tout à fait, j'allais dire, cohérente par rapport au regard que l'on portait alors sur l'architecture gothique, où on voyait essentiellement l'ornement. On retenait moins la grande innovation structurale de l'architecture gothique que l'ornement. Et l'ornement excessif de la fin du gothique, n'est-ce pas, lorsque les motifs, en particulier végétaux, remplissent à l'envi l'édifice et les chapiteaux, les fiales, etc. Alors, je voudrais encore déborder un petit peu sur la deuxième heure pendant quelques minutes pour entrer dans la phase de réaction contre Vasari. Pour la raison suivante, c'est que nous allons aborder là des personnalités qui ont non seulement remis en cause la vision de l'art qu'avait Vasari, mais qui, pour moi, constituent vraiment les personnalités fondatrices d'une véritable histoire de l'art. Je dirais que L'histoire de l'art ne commence pas avec Vasari. Il y a une histoire qui commence avec Vasari. C'est l'histoire des, bien entendu, des biographies d'artistes. Mais la véritable histoire de l'art commence avec des hommes qui ont des noms qui vous seront vraisemblablement peu connus, sinon inconnus. Giulio Mancini, en particulier. Giulio Mancini, dont la personnalité va me retenir ici encore pendant un moment, non seulement est une personnalité absolument essentielle pour le passage à une vision de l'histoire de l'art après Vasari, mais en plus, c'est un homme dont les écrits n'ont été publiés qu'au XXe siècle. Donc, il faut se dire que cet homme qui a apporté un tel nombre de remaniements en profondeur de la vision de l'histoire et de la vision de l'art était connu, bien entendu. Il était connu des milieux romains. Il était médecin du pape, donc il avait une, comme on dit aujourd'hui, un réseau de relations telles que. Et il conseillait énormément de gens. Il était collectionneur, il conseillait des collectionneurs. Donc c'est une personnalité très, très, très connue. Mais ses écrits n'ont pu avoir aucun effet, même s'ils circulaient néanmoins, n'ont pu avoir aucun effet dans le grand public européen avant le XXe siècle. Donc Giulio Mancini, né en 1558, mort en 1630. Mancini s'écrit évidemment M-A-N-C-I-N-I. Il a fait des études de médecine, d'astrologie et de philosophie à Padoue. Il a été médecin à l'hôpital romain de San Spirito. Il a même été médecin des prisons à un moment donné. Mais après 1616, il est fait médecin particulier du pape Urbain VIII. Et il devient même chanoine de Saint-Pierre. Cet homme, qui fait donc partie de l'entourage de la cour pontificale, en tout cas, est un grand amateur d'art, un amateur d'art, et qui revendique le titre d'amateur, c'est-à-dire non pas un artiste, non pas un marchand, mais un amateur, connaisseur, comme on dit aussi. Il appartient à une génération qui affirme la personnalité des amateurs, des dilettantes dans le champ de l'art, même dans le champ de la critique d'art. Mais l'un et l'autre ont eu des prédécesseurs, indiscutablement. On peut penser, par exemple, à Larétin, on peut penser à Dolce, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont des écrivains ayant déjà eu un point de vue sur l'art extrêmement personnel et qui n'a absolument rien à voir avec l'historiographie vasarienne. Néanmoins, il y a une personnalité encore, je vais en citer plusieurs, à côté de Mancini, bien entendu, mais parce qu'avec Mancini, nous touchons aussi à tout un milieu romain particulier. Il y a une autre personnalité qui s'appelle Giovan Battista Agucci, A-G-U-2-C-H-I, qui a rédigé un traité sur la peinture dans la première décennie du XVIIe siècle, qui représente véritablement une sorte de moment de transition où nous avons conscience que non seulement ces hommes vont aborder l'histoire et l'histoire des artistes et les œuvres surtout d'une manière absolument nouvelle, mais qu'eux-mêmes ont conscience de passer d'une époque de l'art à une autre époque de l'art. Notamment, ils ont conscience de la réaction naturaliste au maniérisme. Le naturalisme caravagesque est déjà en train de décliner en face de Guido Reni et du Dominicain. Donc on entre dans une phase nouvelle de l'histoire de l'art, on est vraiment dans un moment de passage, et cette modification qui affecte en profondeur le monde artistique lui-même n'est évidemment pas sans importance pour ce que nous aurons à dire. Alors Mancini est une personnalité d'une activité absolument prodigieuse. Il écrit une histoire de Sienne en 1615. Il rédige en même temps un Discorso di Pittura, un discours sur la peinture, qui contient déjà des éléments d'une véritable, de l'art du connaisseur. Il nous explique déjà ce que c'est qu'un connaisseur. Et c'est d'ailleurs ce discours qui sera ensuite retravaillé et figurera au début des Considérations sur la peinture, Considerazioni sulla pittura, 1621, qui n'a jamais été publié avant 1956-57. Il a encore écrit un autre petit traité sur le dessin, et enfin un important voyage pour Rome pour voir les peintures qui s'y trouvent, Viaggio per Roma per vedere le pitture che si ritrovano in essa, édité pour la première fois en 1923. Dans ces considérations, il est très intéressant de voir que l'amateur d'art, celui qui connaissait des artistes, qui allait dans des ateliers, qui examinait les œuvres, prend tout à coup le soin de s'occuper d'autres domaines pour revenir à l'art. C'est un homme qui comprend quelque chose, je dirais, à la pluridisciplinarité. Comment s'occuper d'art si on ne s'occupe pas aussi d'autres choses, si on n'est pas informé d'autres problèmes. Et quel est le modèle vers lequel il va se tourner? C'est la paléographie. La paléographie comme modèle pour établir des règles qui permettent de conclure à l'authenticité d'un texte. À l'authenticité, la datation, la localisation et pourquoi pas à l'attribution d'une source. Or, transposer cela à l'art, eh bien, vous aurez le critique ou l'historien d'art qui va utiliser des règles, mettre au point d'abord des règles et les utiliser pour conclure à l'authenticité d'une œuvre d'art. Est-ce que cette œuvre d'art a été remaniée? À la datation, à la localisation et à l'attribution de cette œuvre d'art. Donc le modèle qui lui paraît absolument évident pour se tourner vers l'art, c'est la paléographie. C'est une position méthodologique d'une très grande importance. Je vais m'y attarder la prochaine fois, mais avant cela, je voudrais encore dire que ces questions-là, authenticité des œuvres, attribution, datation, Vasari les évoquait aussi, mais avec beaucoup de légèreté. Il n'avait aucune méthode, aucune capacité de se tourner vers des modèles philologiques, ou précisément ici paléographiques, qui auraient pu être utilisés par lui. Donc il était toujours, il avançait de la même manière, c'est-à-dire d'une manière extrêmement affirmative, souvent péremptoire ou elliptique quand il ne savait pas. Mancini considère que tout cela est terminé, ce n'est pas ainsi qu'il faut travailler. Il écrit, et il affirme écrire, en tant que dilettante pour les dilettantes. Il est dilettante et il écrit pour les dilettantes. Il s'adresse à un public d'amateurs collectionneurs pour les guider dans leurs achats, dans leurs choix, et il y a dans son livre un chapitre sur la reconnaissance des peintures, comment reconnaître des peintures, ou encore comment comparer, collectionner et conserver les peintures. Et Mancini allait jusqu'à donner des conseils sur la façon d'accrocher les œuvres dans un salon par rapport à la lumière qui pourrait détériorer des œuvres gravées ou des dessins, par rapport à la hauteur à laquelle ces œuvres doivent être accrochées, comment les conserver pour qu'elles ne s'abîment pas, comment éviter d'acheter des faux quand on est collectionneur. Ah, évidemment, ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour les collectionneurs de l'époque, et vous avez compris, à travers ce que je vous ai dit de Goltzius et de Michel-Ange, que les faussaires ne manquaient pas, même les faussaires géniaux. Reproche à Vasari de n'avoir pas suffisamment utilisé les historiens de son temps. Il nous dit que Vasari aurait dû davantage s'appuyer sur Borghini. Or, si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez peut-être que Borghini, je l'avais parlé longuement à propos de Vasari l'an dernier, il était un de ceux qui avait donné énormément de conseils à Vasari pour la deuxième édition d'Évité de 1568. Et il dit en particulier, il aurait fallu que Vasari utilise davantage Borghini, qui était des sources plus certaines, et ça lui aurait évité à Vasari de tomber dans le romanzi, dans le roman, dans les fantaisies. Mais en même temps, Mancini ne semble pas comprendre que l'attitude de Vasari vis-à-vis du Moyen-Âge est entièrement partagé par les hommes de son temps. C'est pas au milieu du XVIe siècle, c'est comme ça qu'on voyait le Moyen-Âge, et cela va durer, nous en avons des preuves, en évoquant même les écrivains du Nord, Van Mander et Sandrart. Et au fond, la grande question de dissension entre Vasari et la suite, c'est-à-dire et notre ami Mancini, c'est la question de l'évaluation du Moyen-Âge. À partir du moment où on prend en compte le Moyen-Âge, j'allais dire où on le rend présent dans l'évolution de l'art, dans l'histoire de l'art, il n'y a plus cette grande lacune entre la basse antiquité et la Renaissance. Et une histoire de l'art n'est possible qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire quand les choses sont envisagées selon une continuité, selon une perspective continue. Et c'est ce que Mancini va faire, mais avec des moyens, avec des modèles qui vont sans doute vous apparaître comme extrêmement étonnants, qui sont liés à la contre-réforme, qui sont liés à la politique de l'Église de ce moment-là, qui permet de réintégrer d'abord l'histoire du Moyen-Âge et donc aussi les objets qui en témoignent, c'est-à-dire les œuvres d'art, dans un grand tout. Et c'est cette question-là qui est absolument essentielle, parce que c'est elle qui peut nous faire dire l'histoire de l'art naît à ce moment-là. L'histoire de l'art ne peut pas naître chez Vasari qui évacue toute une partie de l'histoire. Elle ne peut naître qu'à partir du moment où toute l'histoire, du moins celle qui est connue par des textes, parce que je ne parle pas de la préhistoire, évidemment, mais où toute l'histoire connue par des textes peut être entièrement documentée par des œuvres d'art. Nous marquons une petite pause avant de reprendre pour la deuxième partie de projection.